Fiamo Autonorma.
Bonantagon Guy, bonantagon Fred.
Bonantagon.
Alors aujourd'hui, une émission espérant un peu spéciale, puisqu'on ne va pas faire de leçons ni de lecture, mais on va parler d'un congrès qui se passe à Pau le week-end prochain.
Tout à fait. Bah.
Voilà, et donc nous avons avec nous Frédéric Cibord, qui est l'organisateur de ce...
L'organisateur en chef.
L'un des organisateurs. On est un comité d'organisation, on est 8 personnes, voilà.
Oui, mais enfin, c'est quand même toi qui es derrière l'origine et...
Bon, j'accepte les lauriers, d'accord, mais
c'est vrai.
Voilà. D'accord. Alors, c'est un congrès d'espéranto organisé par quelle association ? Par Satamikaro ? Qu'est-ce que c'est, Satamikaro ?
Alors, Satamikaro, en fait, donc, c'est une association d'espérantistes de pays francophones. Voilà, et c'est une association qui est liée à SAT. Alors, SAT, c'est Senatietsa Asocio Tutmonda. Et c'est une association mondiale de travailleurs espérantistes, en fait.
D'accord, donc Satamikaro et la partie française.
Francophone.
Francophone, d'accord.
Car SAT refuse de s'organiser par rapport au pays.
Voilà. D'accord.
Et ça l'idée justement étant d'avoir un peu de revenir à ce qu'étaient les bases, ou dès les bases de l'espéranto, c'est-à-dire c'est d'être des êtres humains avec des êtres humains, et en essayant d'éviter les idées préconçues. Si on va voir un Anglais, on se dit « Ah, il est Anglais, donc il est comme ça ». Même si on essaye de... Voilà. Là, on voit un espérantiste. Il parle espéranto, nous aussi, on ne sait pas forcément sa nationalité.
On ne se soucie pas d'où il vient, ce qu'il peut penser, quelle est sa culture, ce qu'il peut comprendre, admettre, pas admettre.
Ah, on s'en soucie, mais on n'a pas d'idée préconçue.
D'accord, voilà.
On va prendre tel qu'il est, et pas tel qu'on croit qu'il est. Voilà.
L'association Satamikaro, et donc plus généralement SAT, existe depuis combien de temps ?
Alors, donc l'association SAT, il me semble que c'est 1921. Quant à l'association Satamikaro, alors c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a eu plusieurs fédérations entre les deux guerres mondiales en France. Et ensuite, je crois que Satamikaro, les statuts actuels, l'association telle qu'elle est, c'est 1946, je pense.
D'accord.
Et donc les pays francophones, tu peux dire à peu près quels sont les pays membres, les États membres
Alors, il y a des espérantistes essentiellement vu que... Comment ça se passe géographiquement? On a surtout des Suisses, des Belges et des Français. Mmh. Voilà.
Les Canadiens, non?
Non, puisqu'ils sont plutôt organisés, en fait, ils sont organisés sur une fédération Amérique du Nord. D'accord. Voilà. Donc ils ne sont pas...
Suisses?
Voilà. Des Suisses, oui. Voilà, mais il est plus simple pour un Québécois d'aller dans des congrès. Venir à Pau, c'est un peu cher, c'est un peu loin. On s'organise plutôt, donc quand même un peu géographiquement, champ linguistique plus champ géographique.
D'accord. Combien de membres vous avez au sein de votre association ?
Alors Satamikaro, je pense qu'on est aux alentours de 800 adhérents en France. Mmh. Enfin en France, donc, et Belgique, Suisse, voilà.
C'est plutôt tendance à évoluer, ça stagne ?
Alors là, l'espéranto, c'est un peu... On va dire qu'il y a eu un mouvement qui était très fort entre les deux guerres. La Deuxième Guerre mondiale a fait beaucoup de mal à ce mouvement-là. Les espérantistes, ensuite, ont tenu la maison, voilà, avec un public espérantiste plutôt vieillissant. Et c'est plutôt les années 90, aux alentours des années 90, qu'il y a eu un petit renouveau. Voilà. Donc pour l'instant, je trouve qu'on est plus dans une phase de transition. Donc on a plus de nouveaux qui arrivent un peu chaque année, mais en même temps, le nombre a plutôt tendance à stagner.
D'accord.
Voilà.
Donc, il ne diminue pas, c'est déjà bien. Stagner, dans certains cas, c'est presque progresser. On va admettre que c'est comme ça. C'est un peu la même remarque que l'on peut noter au sein d'Espéranto France. Hein. Il y a une stagnation avec un petit regain de curiosité, nous dirons. Et grâce à Internet, on voit qu'aujourd'hui, ça se développe. Le problème, je pense, c'est que ce n'est pas forcément avoir un nombre de membres, c'est avoir un nombre de membres affiliés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont espérantistes, mais pas forcément espérantophones. Et donc, où ils le sont, mais pas forcément affiliés à une fédération, telle que Satamikaro, par exemple.
On a un peu le problème, effectivement, avec les plus jeunes adhérents qui, parfois, se disent « Bon, ben, j'ai Internet, je peux voyager, pourquoi payer une cotisation ? Pourquoi ?» Voilà. Alors, si on fait ça, c'est qu'on ne prend pas en considération que, ben, on est un mouvement culturel. Enfin, ce soir, par exemple, j'ai amené de la musique. Sur le congrès, on en reparlera, mais il y a 3 spectacles, 3 concerts. On en reparlera. Il y a aussi 2 livres qui sortent lors du congrès. Il y a de la littérature, etc. Tout ça, ça demande des moyens. Et c'est bien ça, parce qu'il y a des associations, en fait, qui organise. Le côté chacun tout seul dans son coin, sinon il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas vivre. On a besoin de s'organiser véritablement.
Mais voilà, c'était ce qui expliquait un peu là, cette stagnation de chiffres. C'est que le revers de la médaille d'espéranto, qui est facile, peut s'apprendre on peut l'apprendre de façon individuelle avec Internet et puis s'en sortir comme ça. Et donc le besoin, le ressenti qu'on pourrait avoir à s'affilier à quelque part pour être plus fort, ou pour apprendre, pour en retirer quelque chose, mais n'existe pas, malheureusement, au sein de suffisamment d'espérantistes.
Je suis assez d'accord. Voilà. Donc, forcément.
On va parler de ce congrès, alors, qui se passe le week-end prochain.
Voilà, donc c'est un congrès, c'est le congrès de votre association. J'ai même lu Assise, dans la presse locale. Mais vu le programme que nous avons affiché dans certains lieux culturels de Laurent, la mairie, au centre Leclerc, nous observons qu'au-delà de ces réunions de travail,
le centre Leclerc
Culture,
c'est un
mot
culturel, oui, mais
yes.
C'est un détournement du mot culture, là.
Leclerc Culture existe, Marc.
D'accord. Je n'ai pas pu qu'ils aient appelé ça culture ou que c'est culturel. C'est une remarque.
C'est une remarque. Et donc, au-delà des réunions de travail que comportera votre congrès. Ce congrès comporte de nombreuses activités touristiques et culturelles, notamment. Peux-tu pendant un petit moment, 5-10 minutes, nous dire un peu.
Ben en effet, donc, comme on est une association d'espéranto, on est une association sur une langue. Et donc, une langue, il faut la faire vivre. Donc, on va avoir dans le congrès la partie véritablement de l'association, alors avec ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on organise un mouvement espérantiste, donc on a des choses à faire, mais comme par exemple voir la comptabilité annuelle de l'association et ce genre de bagatelles. En même temps, du coup, puisqu'on se retrouve, on essaye d'avoir un programme culturel assez important. Et puisqu'on n'est pas un mouvement, enfin, par nature, l'espéranto, c'est pas fermé sur soi, on l'ouvre au public local qui veut participer. Donc, on va trouver plusieurs choses. Alors, la première des choses sur lesquelles j'invite vraiment les gens à venir, ceux qui sont un peu curieux, c'est le samedi après-midi, à partir de 14h jusqu'à 16h, donc au lycée Louis Barthou à Pau, on fait des portes ouvertes. Donc là, chacun peut venir. Il y aura des petits cours d'initiation à l'espéranto pour ceux qui le souhaitent. Il y aura la visite du livre cerveau, donc pour voir ce qui existe en termes de littérature. Il faut savoir, par exemple, qu'il y a plus de 60 000 livres déjà édités en espéranto.
Combien ?
60 000 en un siècle, c'est déjà pas mal.
En effet.
Voilà, il y aura aussi une table de disques avec une maison de production de disques en espéranto qui sera là également. Donc il y a beaucoup de choses à voir pour le grand public. Il y aura à 17h, ça c'est une belle rencontre, je trouve, puisque c'est Lionel Dupuis qui est à Pau, qui est enseignant dans un collège, enseignant en collège occitan. Il enseigne l'histoire-géographie et il est spécialiste, il est doctorant sur Jules Verne. Et pour le congrès, par exemple, donc il va nous faire une conférence sur Jules Verne espérantiste. Et à l'occasion du congrès, d'ailleurs, va sortir un livre du
Jules Verne espérantiste.
Voilà, parce que Jules Verne, à la fin de sa vie, donc grosso modo en 1903, c'est sur les 2 dernières années de sa vie, a été fort convaincu par l'espéranto et a commencé à écrire un livre qui est resté inachevé, où le héros principal, en fait, était un espérantiste et où le thème du livre était l'espéranto. Donc, il n'y avait pas eu encore d'études un peu sérieuses de fait sur ce thème. Lionel Dupuis, donc, qui lui se spécialise sur Jules Verne et la géographie, c'est dans le cadre de voyages d'études, donc justement, ce livre-là. Donc, il a fait ce travail universitaire, on peut dire presque, là, et il va nous le présenter samedi à 17h. Donc là, c'est ouvert à tous, et il y aura ce petit livre qui va être édité pour l'occasion.
Donc, et ça se passera au lycée Louis Barthou, ça ?
Ça, au lycée Louis Barthou, voilà.
Très bien.
Ça, à 17h. Ensuite, le samedi soir, là encore, une très très belle soirée en partenariat avec le cinéma d'art et essai Le Méliès à Pau. Donc là, c'est une soirée concert et film. Donc le concert, c'est un film. Le concert, c'est Jacques Ivar. Donc Jacques Ivar, c'est un chanteur de Dunkerque qui a passé 20 ans aux États-Unis, qui était élève de Georges Brassens. Et Jacques Ivar, donc là, c'est un chanteur de la mer, il a beaucoup de chansons sur les marines, etc., des chants de marins. Il a repris beaucoup de choses, donc lui, ça fait vraiment plaisir de l'avoir. Il a quand même, je pense, plus d'une dizaine d'albums à son actif, et il en a notamment deux en espéranto, parce qu'il a rencontré l'espéranto il y a peut-être 15 ans autour de l'association Citoyens du Monde. Voilà. Donc voilà, et le film qui va suivre sera un film espagnol de 2004, El Coche de Pedales, qui est un film sur la vie d'un petit village espagnol du temps de Franco, et entre autres un peu signe de résistance, le héros, il y a des cours d'espéranto, etc. Et il faut savoir par exemple que l'espéranto était... A plus ou moins été interdit dans l'Espagne de Franco. Donc, donner des cours d'espéranto sous Franco, c'était un signe de résistance un peu pacifiste, on va dire.
Eh bien, on va peut-être écouter un morceau de musique donc, de Jacques Ivar.
Voilà, donc là, une chanson que tout le monde connaît, donc peut-être tout le monde va la reconnaître en l'écoutant.
I longe shirmis vin, iel juvelon raran. Via liber, viciam helpis min, al fugio trans la mar. Iri for pur obstin, iri for gis la fin, del voioi de fortuno. Or pluki en sonjar, roson de serenar, sur a radio de luno. Via liber, char vintro amis min, ne plu obeis la min. Al vi liber, ia cion donis min, caciam cun obstin. Iom suferis mi, por accepti de vi, ciun viain posturoin. Ien mi en nova land, for de amico band, por gaidi vian fidon. Ia river per vi venis la fin, e ciui lacuti moi. Ia river provinciuaris mi, solezzon gis culmen. Vi ridetigis min, ciam ecis la fin de bella aventuro. Vi ets protectis min, ciam cascigis mi, por flegi mian condon. Via river, mi tamen lasis vin, en nocto de decembro. Forlasis mi, la voion plei margenain, de ni du elettitain. Iam mi en sentiven, per ligilo caicen, icis mi sen resist. Cai perfidis viniam, por prisono deam, un bella gardistin. Cai perfidis viniam, por prisono deam.
Alors c'était Jacques Ivar. Donc il nous a dit que le samedi après-midi c'était portes ouvertes, c'est-à-dire que les conférences sont toutes en français.
Voilà, là c'est vraiment pour faire découvrir cette langue au grand public, et donc notamment aussi pour la conférence sur Jules Verne de Lionel Dupuis, ce sera également en français. Voilà, et j'espère qu'il y aura beaucoup d'amoureux de Jules Verne aussi qui viendront sur ce thème.
Il y a d'autres animations que la conférence de Jules Verne ? Samedi.
Donc samedi après-midi, c'est ce que je disais, ça va être donc surtout de rencontrer, de venir parler avec des espérantistes et les initiations à l'espéranto.
D'accord.
Voilà. Le soir, donc c'est ce théâtre, c'est le film plus concert de Jacques Ivar, donc au Méliès. Donc là, cette soirée-là est payante, hein, vu que c'est un partenariat avec le Méliès. Donc l'entrée est à 9 euros. Les deux autres journées du congrès, là, sont pour les congressistes. Hein, donc ça, tout se passera en espéranto, de toute façon. Mais en revanche, les deux soirées, on organise deux soirées culturelles supplémentaires qui, là, sont ouvertes au public. Et ces deux soirées ouvertes au public seront en plus gratuites. Donc le dimanche soir, ce sera à Pau, au Théâtre Saint-Louis. Et là, ce sera un groupe catalan qui s'appelle Kaitiel Plou. Donc Kaitiel Plou, ça veut dire etc. en espéranto. Et ce groupe catalan donc chante en catalan, chante en occitan, chante encore en quelques autres langues et chante aussi en espéranto. C'est un groupe d'espérantistes. Hein. Et donc, ils donneront ce concert. Donc, c'est de la musique traditionnelle catalane, chantée en espéranto, plus quelques chansons catalanes de la guerre d'Espagne. Voilà, c'est ce type de programme. Ils sont sept avec des cordes. C'est assez sympa.
La troisième soirée culturelle, donc lundi.
Et le lundi, donc là, on change un peu avec un des contes et chansons russes. Voilà. Donc c'est une soirée qui s'appelle, un spectacle qui s'appelle Lyuba, et qui sera donc avec une conteuse qui s'accompagne à la guitare, et un espérantiste aussi qui va chanter et être la balalaïka. Voilà. Pour ceux qui se souviennent, le balalaïkiste en question, c'est Jean-Marc Leclerc, qui était notamment le chanteur des Rosemary's Babies et qui est toujours le chanteur des Libertarios. Voilà.
Bon, très bien. Voilà, qui va mettre l'espéranto au haut niveau.
Oui, je pense qu'il y a quand même de quoi découvrir l'espéranto pour ceux qui ne connaissent pas encore trop sur la région.
Très très bien. Et pour en revenir donc à l'espéranto, ne penses-tu pas, bon, je dirais comme je le pense, qu'il se trouve un peu dans une situation comparable à celle dans laquelle se trouve le Béarnais? Je lisais en effet dans la presse ces jours-ci, mardi dernier, des propos de M. Éric Rey Belbéder, qui est président de l'Institut Occitan, et Emmanuel Penn, président de l'Institut Béarnais et Gascon, selon qui notre langue régionale elle reçoit une très forte adhésion, ce qui est aussi le cas pour l'espéranto, lorsqu'on en connaît l'existence et les vertus, que notre langue régionale reçoit aussi un très fort souhait de pérennisation, qu'elle a trop peu de locuteurs, on vient de l'évoquer tout à l'heure par rapport à l'espéranto, et qu'aujourd'hui, cette langue-là est arrivée à un stade qui nécessiterait le relais par les pouvoirs publics. Je crois que ça, c'est d'autant plus crucial vis-à-vis de l'espéranto que cette œuvre, qui est reconnue d'intérêt public, il faut le savoir quand même, présente des atouts, à mon sens, colossaux, en termes de sauvegarde des langues, où on sait qu'une langue disparaît tous les 15 jours, il y en a plus de 6000 pour le moment dans le monde, en termes d'humanisme, grâce à sa facilité d'apprentissage pour tous, sa facilité de prononciation, donc pouvoir de communication internationale, ensuite en termes de justice sociale, grâce aux diminutions de situations discriminatoires, intellectuelle, concurrentielle et économique à laquelle nous confronte aujourd'hui l'anglais notamment, mais c'était le cas pour le français le siècle dernier. Et finalement, en termes d'économie, compte tenu des coûts en temps et en argent dus à l'apprentissage aux langues étrangères. Ton avis ?
Alors les rapports entre espéranto et béarnais, en tout cas, on va dire qu'il y a des points communs sur le fait d'être deux langues un peu minoritaires. Voilà, donc là, on va trouver des points communs. On va en trouver
c'est pas
d'ailleurs.
Trop, la comparaison qu'ils ont fait, c'est simplement pour dire que l'espéranto aujourd'hui a besoin d'être pris en charge maintenant un peu plus par les pouvoirs publics.
De toute façon, oui, c'est une évidence que le mouvement espérantiste, parce qu'on peut revenir là-dessus, on estime à peu près à 2 millions d'espérantistes dans le monde. Donc là, on est sur des chiffres que donnait le Quid par rapport à une étude qui a eu lieu. Donc 2 millions de par le monde, c'est beaucoup et c'est peu. C'est beaucoup parce que c'est sur un mouvement associatif. Alors moi, je peux un peu lancer le défi, mais quel autre mouvement associatif se retrouve comme ça avec 2 millions de personnes de par le monde dans environ 120 pays? Je pense que c'est une grande réussite. Voilà. On voit la réussite de l'espéranto. L'espéranto, ça a un peu plus d'un siècle. À un peu plus d'un siècle, c'était une langue créée, qui est devenue langue vivante, qui a vraiment des locuteurs dans le monde entier. Donc c'est vraiment une langue internationale. C'est pas un projet de langue internationale. C'est une langue internationale qui fonctionne, qui a fait ses preuves, qui vit, qui se réforme. Donc voilà. Ensuite, à un moment donné, pour que on remplisse vraiment, que cette langue remplisse le rôle pour lequel elle a été créée, évidemment, ça ne peut pas rester dans un cadre associatif. On comprend bien que l'espéranto, pour son plein développement, il faudrait évidemment un enseignement dans les écoles. Voilà. Donc il y a quelques pays qui ont passé le cap. Moi, je suis très content parce que maintenant, on a enfin un pays dans l'Union européenne qui enseigne l'espéranto au lycée à égalité avec les autres langues, c'est-à-dire que c'est la Hongrie. Donc c'est d'ailleurs pas un hasard, c'est le plus petit avec une langue peu parlée à l'extérieur de ses frontières, donc elle a encore plus besoin d'une langue neutre. Là, on se retrouve là-dessus. Donc que ce soit au niveau mondial, au niveau de l'Europe, je pense qu'effectivement, il faut un investissement des pouvoirs publics. Si je veux aller un peu plus loin, je dirais qu'à chaque fois dans le monde, le français a été la langue internationale de référence. Là, en ce moment, c'est l'anglais ou l'anglo-américain, la langue internationale de référence. Mais on voit que les empires, un par un, ils s'effondrent. Les empires s'effondrent. Leur langue, qui était la langue de référence, est remplacée par une autre, qui est encore la langue d'un autre empire.
Pendant quelque temps.
Donc le pays le plus puissant impose sa langue, et parfois comment, hein, parce que si on prend l'anglais qui s'est imposé, c'est aussi par la colonialisation, et c'est pas des belles choses qui se sont passées pour imposer l'anglais, c'est pas tellement positif. Donc moi je pense que là on le voit, il y a une crise économique majeure, on le voit, il y a un monde qui change, on a un monde de plus en plus mondialisé, le village mondial on nous parle, mais là on voit que justement il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer qui fait que l'espéranto est le projet, le monde est peut-être maintenant mûr pour l'espéranto, je veux dire. Parce que quand l'espéranto a été créé en 1887, ça fait pas mal de temps, les gens ne voyageaient pas autant. Les moyens de communication, on n'avait pas le téléphone comme maintenant, on n'avait pas Internet, on n'avait pas cette immédiateté du contact, un peu de pouvoir rompre les frontières et les milliers de kilomètres facilement. Donc, je pense que l'espéranto est peut-être arrivé trop tôt par rapport à l'état du monde, l'espéranto est vraiment nécessaire, serait immédiatement utile, et dans un cadre vraiment de démocratie. Voilà. Parce que c'est dans ce cas-là un outil démocratique.
Oui, et on voit bien qu'aujourd'hui, par les enquêtes qui sont menées de droite et de gauche, ou par les consultations qu'on a évoquées sur Radio Laurent, on voit que le besoin d'une langue neutre est de plus en plus réclamé. Et ma foi, on a la chance d'avoir un outil qui a été créé, qui est là, sur la table. Il ne nous reste plus qu'à nous en servir.
Oui, ben c'est un peu ça. Puis c'est amusant parce que l'espéranto, il y a quelques opposants. Il y a des gens opposés à l'espéranto quand même, ça c'est amusant.
Oui, quand on demande pourquoi, voilà. Les réponses sont aussi amusantes.
En revanche, sur les gens sont plutôt favorables à l'espéranto, beaucoup, dès qu'on commence à les informer, avec juste... Eh ben, c'était une bonne idée. Dommage que ça n'ait pas marché. Mmh. Et un peu comme si, alors moi, ça c'est quelque chose qui m'horripile, un peu comme si c'était tout le temps la fin de l'histoire, quoi. Donc, maintenant, il n'y a plus que le capitalisme, parce que bon, ben, ça y est, on peut pas faire autrement. Il y a, c'est l'anglais, la langue internationale, on peut pas faire autrement. Et puis, tout comme ça, on peut pas faire autrement. Et, bon, je demanderais aux gens d'avoir un peu plus d'optimisme et d'être un peu plus résolu pour demander à ce qu'on fasse autrement.
Un peu plus volontaire.
Voilà, il y a besoin.
Après, il est... Surtout que c'est pas dur, ce n'est qu'un avantage. Il n'y a aucune difficulté, il n'y a que de l'économie, du coup, il n'y a que du gain à pratiquer l'espéranto.
Mais que du gain pour qui ? Pour les populations ?
Pour le peuple ?
Dans une vision,
pour l'homme ? Après, c'est vrai.
Une vision démocratique.
Ah non, mais si on parle.
Pour les dominants actuels de ce monde qui est en train s'écrouler, l'espéranto, ce n'est pas une bonne chose.
C'est vrai que pour les pays anglo-saxons, c'est une manne aujourd'hui de parler l'anglais. C'est exact.
Voilà. Néanmoins, il ne faut jamais oublier que c'est quand même le peuple le plus nombreux.
Oui,
c'est,
il faut qu'il en prenne conscience.
Par rapport aux dominants.
Nous devons en prendre conscience et c'est un peu ce à quoi nous nous attachons. N'est-ce pas, Marco ?
Oui.
Bien, voilà, donc...
Deuxième pause musicale, Fabrice, tu as le deuxième morceau ?
Oui, elle achetait toi des Polandes, elle a guettoy des Russiti et vi existis. Oui, c'est la chaloy des Prejado, c'est la pipa et c'est torrate et elle vi résistis. Vi
kiel pensis por ni unu novan mondon. Jes, el pensis por ni unu novan mondon. Vi, en germana bombfabriko, en rumana metiei sur la nigrai listoi. Vi, ce la rando de Baltico, en Vieno, en Paris estis laboristoi. Vi, fabricis por ni unu novan mondon. Jes, fabricis por ni unu novan mondon. Ja, bo, 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 mi, ja, bo, boi. Kia estis via destin. Ja, bo, 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 mi, ja, bo, boi. Vi ne revis pri Palestin. Vi es liberezzano ed en el Irlando. Ja, bo, 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 mi, ja, bo, boi. Ne dronigu vin la forges. Ja, bo, 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 mi, ja, bo, boi. Vi mi rememoru sen ces. Vi es liberezzano ed en el Irlando.
El praava e tradizio, far carta e pickle flash, lugis kai inspiris. Vin, pli ol festo de la lumoi, la unu attac de mai alla strata altiris. Vi, vi revis por ni pri la nova mondo. Yes, vi revis por ni pri la nova mondo.
Ia bo 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 bo, ia bo boi, kia estis via destin. Ia bo 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 bo, ia bo boi, vi ne revis pri Palestin. Vi es liberezzano de Irlando. Ia bo 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 bo, ia bo boi, ne dronigu vin la forges. Ia bo 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 bo, ia bo boi, vi mi rememoru sen ces. Vi es liberezzano de Irlando. Ja bo 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 mi ja bo boi. Vi ne revis pri Palestin. Vi est liberezzano de Irlando.
Ja bo 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 mi ja bo boi.
Ne dronigu vin la forges. Ja bo 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 mi ja bo boi. Vi ne rememoru sen ces. Vi est liberezzano.
Alors, suite de cette émission spéciale Espéranto, on va prendre la place des informations ce soir. Donc, on continue jusqu'au sport à moins 20. Alors, sur ce congrès Espéranto qui se déroulera le week-end prochain, donc de samedi à mardi, à Pau. Alors, on a parlé de la journée du samedi qui était portes ouvertes et donc ouverte à tout public, qui se déroulera en français.
Et gratuit.
Frédéric, tu peux nous parler un peu plus de la partie vraiment espéranto, donc qui sera dimanche, lundi, donc partie du congrès, en plus des animations culturelles, qu'est-ce qui se passera pendant ce congrès? Je crois qu'il y a des examens.
Ah, déjà, oui, il y a des examens. Donc là, on a quelques inscrits sur des examens de premier degré et de deuxième degré. Donc effectivement, il y a une volonté justement organisée par les associations d'essayer d'améliorer le niveau de langue des locuteurs. Parce que comme toute langue, comme là il n'y a personne qui a l'espéranto, ou presque personne qui a l'espéranto comme langue maternelle, il faut s'améliorer. Donc les examens en fait servent à ça, servent à un moment donné à essayer de fixer le niveau de langue.
Et juste une parenthèse, ça ouvre quelques portes, ou quelles portes, d'avoir un examen, d'avoir un certain niveau reconnu
Ça ouvre, voilà. Point de vue professionnel, ça n'a, je pense que on doit être à 2 ou 3 professionnels de l'espéranto dans le monde, il n'y en a pas plus. Des gens qui vivent de l'espéranto, il y en a très très peu. Voilà. Il y a bien effectivement une société, mais c'est autre chose en France, qui s'est créée, qui s'appelle Lingua Force, qui est une société de traduction où entre autres ils utilisent l'espéranto pour faire le lien entre différents traducteurs sur des langues un peu rares. Mais bon, c'est des choses assez... marginal.
Mais voilà. ça peut ouvrir des portes sans forcément qu'il y ait une rémunération derrière. Et ça peut donner une porte à crédibiliser certaines traductions. Si j'ai quelque chose à faire traduire, je peux peut-être chercher un traducteur, je sais pas, de niveau 1 ou de niveau 2 en fonction du courrier que j'aurai à traduire.
Tout à fait, et surtout après, parce que par exemple, le niveau qui s'appelle le Capablezzo, c'est un examen qui permet d'enseigner l'espéranto, c'est-à-dire un examen qui se prépare, et qui prépare non seulement à bien parler espéranto, mais aussi sur des éléments de pédagogie, par exemple. Ouais. Donc on essaye de garder quelque chose d'un peu cohérent et avec un certain niveau.
Non, c'est très bien, en plus je pense que c'est créé... un petit réseau de potentialités de traduction ou d'interprétariat ou de professorat. Si un jour une école veut peut-être enseigner l'espéranto comme on voit que ça commence à se passer en Angleterre, en France, il y a pas mal d'expériences grâce à l'espéranto, puisque c'est reconnu comme étant un palier important pour ensuite apprendre éventuellement d'autres langues.
Effectivement, et puis il y a quelques cours d'espéranto dans certaines universités, etc.
Bien sûr, donc
petites choses qui existent.
Donc je crois que ce passage d'examen, c'est construire un vivier. Et peut-être qu'un jour, eh bien, on aura besoin de ce vivier-là pour répandre l'espéranto, l'enseigner, le traduire.
Non, tout à fait.
Est-ce qu'il y a des niveaux dans ces examens espéranto ?
Il y a un niveau français, il y a trois niveaux. Il y a aussi après trois niveaux internationaux qui sont un petit peu plus difficiles.
Donc il y a quand même six niveaux.
Enfin, non, c'est les mêmes niveaux, mais avec le diplôme national et le diplôme international. Voilà.
Ah, c'est bien structuré, ça.
Donc là, par exemple, sur l'accent, etc., dès qu'on part à l'international, on va être... vaut mieux pas avoir trop gardé son accent français, par exemple.
Oui, voilà. Exact.
Sur un examen français, ça va passer. À l'international, un peu moins bien.
Il faut avoir un accent
neutre. Sinon, au niveau du programme, donc il y a des choses qui vont se passer, par exemple, parce que les espérantistes, c'est pas des extraterrestres, ils s'intéressent un peu aux mêmes choses que les autres. Donc forcément, on aura, par exemple, nous, une conférence sur comment faire des traductions, notamment traduire des idiotismes, traduire de l'argot en espéranto. Donc là, il y a quelqu'un, Jacques Lepuil, qui a traduit Sant'Antonio en espéranto, par exemple. Donc il a dû s'y mettre. Donc il va nous donner des bases un peu là-dessus. On a une autre conférence avec Robert Loansi qui va aller faire de Pau sur la retirada espagnole, parce qu'on reçoit des espérantistes qui ne connaissent pas forcément. D'ailleurs, le mardi, il y aura une excursion au camp de Gurs. On va essayer de faire connaître aussi cette partie-là de l'histoire. On aura aussi une conférence, par exemple, sur... Il y aura une initiation au gascon en espéranto. Voilà. Donc les espérantistes qui vont vouloir s'initier au gascon vont pouvoir s'initier au gascon depuis l'espéranto. Un petit cours de gascon en espéranto. Et celui qui va faire ça, c'est pas n'importe qui, puisque c'est toujours le même fameux Jean-Marc Leclerc, qui est l'auteur du mini à 6000 gascon. Donc autant dire, il connaît son sujet. Le mini à 6000 gascon est écrit par un espérantiste. Voilà. D'accord. Donc il faut savoir. Il va nous faire d'ailleurs ensuite, après, une conférence sur la musique occitane. Voilà, et l'histoire un peu de la musique occitane et comment ça s'est formé. On aura une autre conférence, et je continue, mais sur le plan B, donc c'est un livre d'un Américain, Lester de Brown, qui est un livre sur quelles solutions écologiques pour la planète aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un livre qui ne se met pas, enfin qui fait en partie le bilan, mais qui dit voilà qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les premiers pas à faire pour essayer de s'en sortir et de sauver la planète. Voilà, donc ça c'est une conférence sur ce thème, notamment parce que c'est un livre, on pense qu'il a un intérêt à l'échelle de la planète, donc l'espéranto est aussi un outil, et donc on est en train de finaliser sa traduction pour l'éditer, pour cet été, l'éditer et l'avoir dans les congrès internationaux cet été.
Donc cette conférence est lundi.
Voilà, et ça c'est pour les congressistes, hein, c'est en espéranto, et c'est lundi à 16h, oui.
À 16h,
voilà.
Intéressant.
Et il y a... Après, il y a une autre chose très importante pour nous, en tout cas dans ce congrès, c'est qu'il y aura une table ronde sur les dictionnaires. Donc là, on a plusieurs des espérantistes les plus fameux, on va dire, en France, qui travaillent sur l'édition et la rédaction des dictionnaires. Puisque ça, c'est un combat un peu de tous les jours. Hein. C'est une langue vivante, donc il faut mettre à jour, faut éditer les dictionnaires.
Ils font partie de l'Académie d'Espéranto.
Oui, il y a une Académie de l'Espéranto qui valide les nouveaux mots, les nouvelles racines. Et donc là, le but du jeu sur cette table ronde, entre autres, ça va être d'essayer peut-être de poser les bases à la réédition d'un dictionnaire international qui s'appelle le Plenavortaro, dont la dernière édition de cette version-là du dictionnaire est assez ancienne, donc on voudrait relancer un peu les traducteurs pour une nouvelle édition. Voilà, donc ça c'est du travail au long cours, hein, voilà, donc c'est un peu tout ça qu'on va faire dans ce congrès, donc rien de très... étonnant, je pense.
Mais
en revanche, un programme assez riche.
Voilà. Oui,
il y a des choses à faire avec l'espéranto.
Très complet, très riche. Ouais. Ça, je pense que ce sera une très très bonne vitrine pour montrer que l'espéranto, c'est quand même pas une petite langue qui est parlée par quelques personnes dans un coin. Là, les visiteurs, et nous encourageons tous les Oloronais et la région d'Oloron, évidemment, à aller faire un tour, ne serait-ce que par curiosité, et pour voir que nous ne militons pas pour quelque chose d'insignifiant.
C'est le problème de l'espéranto. Alors l'espéranto par rapport par exemple à l'occitan ou au gascon, on voit bien, nous on est 2 millions mais répartis dans le monde, donc ça en fait pas beaucoup dans chaque quartier. C'est sûr, il n'y a pas un espérantiste par palier dans les immeubles, mais effectivement il y a quand même pas mal de monde, et donc il y a une vie culturelle, et effectivement tout le monde est bienvenu pour venir la découvrir ce week-end.
Et puis on dira, moi qui suis bernais, je pense que l'espéranto et le béarnais sont très complémentaires, et ça correspond un peu au vœu de l'UNESCO qui a recommandé à ce que tout le monde parle trois langues, la langue locale, sa langue nationale et une langue internationale neutre. Eh bien, l'espéranto est là, donc nous ne faisons que suivre les recommandations de l'UNESCO. Nous en sommes les premiers militants.
Très bon. Iam esta la tempo por conclui, Federico.
Et voilà.
Yes, tu vi volas diri iom d'appli?
Iom d'appli esperantlingve.
Alors donc là c'est Marc qui se lance, et donc il a demandé, il a signifié que c'était le moment de conclure. Et est-ce que donc Frédéric avait quelque chose à rajouter?
Do exemple, mi povas proponi al vi de presenti la venonta disco. La venonta disco estas Strika Tango.
Yes.
Donc le prochain disque qui va passer, c'est, si je ne me trompe pas, Strika Tango. Estas musicisto el Argentino qui nomiĝas Alejandro Cosavela, kaj li jam venis en Po por kanti antaŭ tri monatoj. Do ĝi estas tre afabla amiko. Donc c'était pour présenter ce disque, c'est un chanteur argentin qu'on a fait déjà venir en concert à Po depuis l'Argentine il y a quelques mois. Voilà.
Un tau d'ancon.
D'ancon à lui.